Le groupe Mutuel s'intéresse aux sujets d'actualité qui touchent la population suisse. En collaboration avec Le Temps, nous vous souhaitons une bonne écoute et un beau moment de découverte.
Des moments catastrophiques où tout d'un coup papa faisait des diarrhées, il fallait complètement le déshabiller, le laver. Et pour une fille, laver son papa dans les parties intimes, ben, c'est pas toujours facile. Au début, j'avais de la peine à faire ça. Mais après, ben, vous dites, ben, vas-y, quoi. C'est... Soit il va rester toute la journée comme ça, soit il va être confortable, mais il faut y aller, quoi.
Bienvenue dans la saison 2 de Brise-Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on n'ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. Cécile a 60 ans et des yeux de petite fille quand elle nous parle de son père. Pendant près d'une décennie, alors qu'il était en fin de vie, elle l'a nourri, elle l'a promené en fauteuil roulant, lavé même parfois quand il le fallait bien. Et ça, jusqu'à la fin. La maison de retraite, c'était hors de question, mais ses années de don de soi, ses joies et ses sacrifices, les proches aidants en parlent encore très peu. Cécile a accepté de revenir sur cette responsabilité et sur les quelques regrets qui l'habitent encore.
J'ai toujours resté proche de mes parents. Maintenant, avec du recul, presque un peu trop proche de mes parents. Je trouve que mes parents m'ont... C'est pas un reproche que je fais, mais c'est une constatation. Je trouve que mes parents ont égoïstement, peut-être, voulu me garder auprès d'eux. Et puis moi, je me suis pas rendu compte, quand j'étais jeune, de ça. Je pensais que c'était peut-être normal. Je me rendais pas compte qu'à un moment donné, il faut sortir du nid. Il faut voler avec ses propres ailes et puis faire ses propres expériences, même si quelquefois elles sont peut-être un peu moins bonnes. Moi, je suis quand même restée toujours un peu la fille sage. C'est après, avec du recul, qu'on s'en aperçoit.
À quel moment est-ce que finalement vous vous êtes rendu compte qu'il y avait eu des premiers symptômes et que peut-être la santé de votre père se dégradait?
Quand on avait la boutique, il avait déjà fait son AVC, mais il était bien à l'époque parce qu'il a fait un AVC. Mais il a réussi à, avec l'aide des médecins, enfin de différents organismes, on a réussi à lui faire retrouver plus ou moins toute sa vie d'avant.
Il avait quel âge ?
Il a fait son AVC à l'âge de 75 ans. Puis un jour, il s'est fait hospitaliser et puis là, on a dû faire un choix. Si on restait, si on travaillait les deux avec maman, ben, il devait partir dans un EMS. Ou alors, on arrêtait et puis on s'occupait de lui. Il s'est trouvé en même temps cette personne qui voulait reprendre mon magasin. Donc, je me suis dit, j'arrête, on verra bien. Et puis, quitte à refaire quelque chose plus tard, ou si j'arrive en parallèle, travailler sur les ânes. Et puis après, quand on a arrêté, ben, ça s'est pas fait parce que la situation s'est tout d'un coup aggravée. Et puis ma maman, elle ne pouvait plus rester seule. Il ne pouvait plus se lever du lit seul. Il ne pouvait plus se réchauffer ses repas. Il chutait de temps en temps. C'est souvent comme ça que ça commence. Enfin, l'hôpital nous a carrément dit que c'était trop dangereux de le laisser tout seul. Et c'est vrai que c'était en danger. Et puis aussi, il avait besoin de compagnie. C'était bien beau, mais je trouve qu'il a été quand même passablement d'années seul. Et je trouve que c'était dommage. Il s'est peut-être aussi un petit peu ennuyé. Et puis peut-être c'était un cri au secours pour faire revenir sa femme, je ne sais pas. Peut-être qu'inconsciemment, tout d'un coup, sa santé a dégradé parce qu'il se sentait seul aussi.
Est-ce que la décision, elle a été évidente? Ou est-ce qu'il y a eu quand même une sorte de processus de réflexion par étape? Est-ce que vous en avez parlé avec votre mère aussi à ce moment-là?
On en a parlé, oui. Mais il n'a jamais été question qu'on place papa dans un EMS. On a cherché plusieurs solutions, mais en tout cas pas de le placer en EMS. Pour nous, c'était une évidence de garder papa à la maison.
Pourquoi?
Je sais pas, c'est difficile à dire pourquoi, mais peut-être que ce noyau familial était tellement fort que c'est comme si on l'abandonnait, peut-être. Pourtant, lui, papa, il était encore assez à l'écoute de notre décision. Il aurait peut-être accepté de partir en EMS, je pense, Mais nous, il n'en était pas question.
Est-ce que lui, il a eu son mot à dire, entre guillemets?
Lui, il était content de rester à la maison. Lui, il a eu son mot à dire. Il nous a dit, vous faites comme vous voulez, mais vous me dites la vérité, vous me cachez rien. Lui, il ne souhaitait pas partir.
À quel moment est-ce que vous en avez aussi parlé avec votre mari ou parce que ça avait quand même aussi un grand impact sur vous? Est-ce qu'il y a eu cette discussion auprès de lui?
Oui, j'en ai parlé avec mon mari. Je lui ai dit mes intentions de remettre le commerce, de tout d'un coup me trouver d'une situation indépendante à une situation de garde malade, de proche aidante. Lui, il m'a toujours dit, t'as beaucoup travaillé, et puis tout s'est un peu précipité, cette personne qui voulait reprendre mon commerce, papa qui rentrait de convalescence, c'était presque du jour au lendemain. Alors je crois qu'on ne se rend pas vraiment compte tout de suite, parce qu'on se dit, chouette, j'arrête de travailler, j'aurai moins de stress, j'aurai la belle vie, mais... Je crois que très vite, on s'aperçoit que ce n'est pas tout à fait ça, parce que vous devez tellement vous investir aussi bien physiquement que psychologiquement que ce n'est pas si chouette que ça, parce que vous avez la responsabilité, la vie, la responsabilité d'une vie et d'une personne, et puis en plus d'une personne proche, ce qui n'est pas toujours facile non plus. Je sais bien que le courage vient au fur et à mesure, que les situations deviennent presque normales, mais il a fallu faire beaucoup d'organisation au début. C'est ça. Vous n'avez même pas le temps de vous poser la question, mais est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que vous êtes tout de suite mis au pied du mur? Et puis, vous ne vous posez pas trop de questions. Déjà, vous pensez au bien-être de la personne que vous allez aider et d'organiser ça au mieux sans trop materner la personne pour qu'il garde une vie sociale aussi. Ça, c'est important. Moi, j'avais à cœur de pas être ce noyau... toujours rester là, collés les uns aux autres. Il fallait pour moi que papa ait une vie sociale en dehors de sa famille. J'ai toujours voulu que papa ne soit pas seulement impliqué avec sa femme et sa fille, mais qu'il rencontre ses amis. Et moi, j'ai provoqué parce qu'en fait, les amis, ils disparaissent. Parce que je pense que c'est de la timidité, de la gêne. Les gens ont peur de contacter des personnes malades, de rester en contact avec des personnes malades. Et si vous, vous créez pas, vous rappelez pas ces personnes, vous les invitez pas, vous créez des événements, vous perdez tout ça. Heureusement, papa a toujours gardé sa tête. Dans la fin de sa vie, il avait quelques démences. C'était une espèce de révolte de se voir dégradé comme ça, je pense, et de plus pouvoir, il est alité. Mais il a toujours gardé sa tête. Il a toujours pu exprimer ce qu'il voulait nous dire. Et il nous a toujours, il est toujours resté avec nous. Oui, alors ça, c'était une grande satisfaction. Parce que quand vous aidez une personne qui aurait perdu le sens de la vie, c'est qui reconnaîtrait plus sa famille, là ça doit être encore beaucoup plus triste. Là, on a toujours pu discuter avec, et on a toujours beaucoup parlé ensemble. J'ai toujours dit ce que je voulais faire. C'était très important de lui parler à lui et pas à l'intermédiaire des autres personnes. J'ai toujours voulu lui parler à lui et jamais le considérer comme une personne malade ou plus capable de prendre des décisions. J'ai toujours voulu qu'il reste toujours avec nous.
Dans une forme de dignité.
Voilà, c'était très important pour moi, la dignité, exactement. Absolument.
Vous n'avez pas de formation de soins?
Aucune.
Comment est-ce qu'on s'improvise, entre guillemets, proche aidant, face à quelqu'un qui a des vrais symptômes, quoi?
Alors, on se renseigne. Je prenais des cours avec la physio pour que la physio venait à domicile, par exemple, je lui demandais d'assister à ses soins, et puis je lui ai demandé qu'elle m'apprenne à aider mon papa dans sa mobilité, à faire les gestes justes pour qu'il souffre pas. Donc j'ai appris presque ce métier avec elle, et puis je posais toujours beaucoup de questions aux médecins, ou à tous les intervenants qui s'occupait de papa. Puis je voulais pas faire d'erreur non plus. Alors vous en faites, bien sûr. Mais j'ai toujours voulu m'intéresser à rester avec papa. Mon papa, c'était une gentille personne, une personne qui avait beaucoup d'humour aussi. Et puis c'était aussi agréable de pouvoir rester en contact avec lui. Mais il y a beaucoup de choses à apprendre au début, si vous avez envie de vous intéresser. Moi, j'avais envie de participer à ça. Du coup, ben, vous rentrez dans cette nouvelle vie. Tout ça pour dire que après l'envie de refaire autre chose, j'avais pas vraiment le temps de m'investir dans une nouvelle carrière professionnelle. C'était difficile, mais il fallait que que je sois valorisée. Voilà, que je me valorise aussi par rapport à ça. Ben, le matin, maman, il y avait le CMS qui venait très tard dans la matinée parce que papa était en lève tard. Et puis, il le préparait, il le levait, il donnait ses soins.
Le CMS, c'est des gens qui viennent vraiment pour pratiquer un soin.
Oui, pour pratiquer un soin de confort, c'est-à-dire le lever, le laver et le mettre dans la chaise roulante pour après l'amener à table. Et puis après, nous, on prenait le relais. Alors, ma maman préparait le déjeuner et dîner pratiquement en même temps. Après, mon frère, comme il venait dîner tous les jours, c'est lui qui le couchait. Il le remettait au lit. Et puis moi, je venais l'après-midi, après sa sieste. Je le levais. On prenait la collation dans l'après-midi ensemble. On discutait. Ou alors, quelquefois, on sortait. Ça dépend de la période. Mais on sortait, on allait marcher. Ou alors j'allais le promener avec sa chaise roulante. Et puis après, je restais jusqu'au soir, jusqu'à ce que le CMS arrive pour pouvoir le déshabiller, le coucher, lui donner, éventuellement le laver, lui donner des soins. Mais la médication, c'est moi qui m'en occupais. Et puis maman lit pas. Et puis, à la fin, il avait une machine, une cigogne, ça s'appelle. C'est pour les transferts entre la chaise et le lit. Tout à la fin, parce qu'il ne pouvait plus marcher, il n'avait plus la force de faire ça lui-même. Et puis, ben voilà, on a aussi appris petit à petit, on a évolué avec lui. Dans l'évolution de sa dégradation de sa maladie, ben, on évoluait avec lui, puis on essayait toujours de trouver des choses pour l'aider, quoi, pour lui donner quand même le goût de vivre, parce que des fois, ce n'est pas évident que tu en as des tributaires complètement des autres. C'est de voir ses parents se dégrader. De voir qu'à un moment donné, ben, vous vous rendez compte que sans vous, cette personne, sans l'aide de tierces personnes, elle ne peut plus vivre. À un moment donné, on se dit, maintenant, il a assez souffert. Et puis, c'est long. À un moment donné, ça me paraissait long, ce travail. Aussi bien pour lui, surtout. Et puis, il nous disait souvent qu'il voulait partir. Et puis pour nous, puis tout d'un coup, quand il part, il y a tout qui se renverse. C'est tout à l'inverse. Vous vous dites, mais je ne me suis pas assez occupée, et puis je me suis pas assez rendu compte que je m'occupais de lui, plutôt. J'ai pas assez apprécié ces moments où il était avec moi. Tout d'un coup, après que vous le perdez, ça semble très court. Mais quand vous vous en occupez, toutes ces années, ça semble très long, effectivement. Puis surtout venant d'une personne comme mon papa, qui était une personne alerte, gay, une personne qui aimait la vie. D'un coup, vous le voyez s'éteindre petit à petit. Et c'est ça qui est difficile. Mais le pire moment, c'est quand il part. Hein. Bon, je suis restée avec lui jusqu'au bout parce que, en fait, c'est des questions qui sont... C'est ce que je redoutais le plus, c'est d'avoir ces émotions, mais disons d'être proche de mon papa a toujours été un grand bonheur, mais le pire, c'est quand il part. Je crois que je n'ai pas vécu de situation pire que lorsque j'étais avec lui. C'était toujours... Il y avait des petits moments, oui, qui étaient tristes, voilà, ou tout d'un coup, ben, Il fallait, pendant la, les soignants venaient le matin, le soir, et le soir, deux fois par jour, mais entre deux, on était là, il y avait des moments catastrophiques où, tout d'un coup, papa faisait des diarrhées, il fallait complètement le déshabiller, le laver. Et pour une fille, laver son papa dans les parties intimes, ben, c'est pas toujours facile. Au début, j'avais de la peine à faire ça. Mais après, ben, vous dites, ben, vas-y, quoi, c'est, soit il va rester toute la journée comme ça, soit il va être confortable, mais il faut y aller, quoi. Vous ne vous posez pas trop de questions pour finir. Pourvu que votre personne, votre malade aille bien ou puisse continuer le mieux possible, ben, vous le faites. Ou des moments où il a des crises aussi. Il y avait des moments où il avait des crises de démence, des moments de révolte, des angoisses, des choses comme ça. Et j'étais pas toujours là, c'était souvent maman aussi, mais la nuit ou des choses comme ça. Moi, j'étais pas là la nuit, mais il avait beaucoup d'angoisse la nuit aussi. Puis ça, c'est un moment triste pour nous, parce que des moments où vous savez pas gérer aussi. Vous avez beau être informé, mais vous trouvez le moment présent à ses côtés, vous êtes un peu perturbé. Puis vous-même, vous êtes peut-être pas toujours à même de rassurer l'autre alors que vous allez pas bien vous-même. Voyez, il y a des fois, on n'est pas toujours 100% juste. Hein. Il y a des fois où on fait peut-être des erreurs, où on ne prend pas la personne au sérieux, où on lui dit simplement ça va passer, mais non, il y avait plus à faire. Mais on fait aussi beaucoup d'erreurs. Hein.
Ben, je pense. On est humain, quoi.
Ouais, on est humain, voilà. Je pense que c'est normal. Vous avez toujours des choses après. Vous dites, ouais, j'aurais pu faire mieux là, ou j'aurais pu. Voilà, mais là, c'est humain, ouais, comme vous dites.
Est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez eu recours, par exemple, à l'humour ou à des formes de dédramatisation?
Oui, souvent. Souvent, pour que ça passe, ces moments d'angoisse ou de tristesse, où vous le voyez qu'il est plongé dans ses réflexions, ben, d'un coup, vous sortez... une anecdote qui s'est passée quand on était jeune, ou vous chantez une chanson avec lui, ou lui, mon papa, il a beaucoup voyagé, il aimait voyager, alors je lui demandais qu'il me raconte ses voyages, et puis comme ça, tout d'un coup, ben, il oubliait sa tristesse, et puis on rigolait, et puis après ça allait mieux, mais il a gardé toujours pas mal d'humour jusqu'au bout. Et c'est vrai, c'est ce qui nous sauvait. C'est qu'il pouvait, on pouvait parler, exprimer. Mais des fois, on n'avait pas... Quelquefois, nous-mêmes, on n'avait pas forcément envie de rigoler ou de raconter des anecdotes du passé. Des fois, on était fatigués aussi. On lâchait des fois un peu les bras. On ne peut pas toujours dire que c'était toujours 100%. On doit aussi être correct et avouer que quelquefois, ben, on flanche aussi.
Est-ce que vous avez le sentiment, c'est parfois ce qu'on entend, que dans les familles, quand même, les filles vont être plutôt prédestinées à prendre soin des proches qui les entourent, alors qu'on va moins attendre ça des garçons. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Oui, complètement. C'est exactement ça. En tout cas, dans ma famille, c'était ça. Mon frère, ben, il avait la gentillesse quand même de donner un petit coup de main, on va dire, un petit coup de pouce. Mais... la grande partie du travail et des corvées, on va dire, quand il y en avait, ben c'est moi qui devais les assumer. Bon, déjà, lui travaillait, moi je ne travaillais plus. Donc, j'étais plus à même de le faire. Mais c'est vrai que ce sentiment de fille plus dévouée à la famille est souvent ressorti. C'était un peu notre époque, je pense, ça. La fille... Elle doit rester proche des parents, et puis elle a des gestes plus maternels, ou elle est plus empathique, ou je ne sais pas, elle est plus à même, peut-être dans ses gènes, de faire ça. J'ai le sentiment que j'ai vécu un peu cette époque-là, malgré que maintenant, je n'y crois plus à ça. Mais oui.
Quand vous dites c'est notre époque, vous pensez que c'est en train de changer aujourd'hui ?
Oui. Oui, à la bonne heure, il y a des choses qui sont quand même bien. J'estime que c'est pas forcément à la fille, parce qu'on est du sexe féminin, de faire ces choses-là. Je pense que les choses sont en train de changer. Je l'ai vu dans les soins, il y avait des garçons qui venaient soigner mon papa à domicile, j'ai rencontré un homme sage-femme. Toutes ces choses font penser à le monde, enfin l'évolution. Il y a une évolution à ce niveau-là. Il n'y a plus la fille, elle a un rôle précis, et le garçon en a un autre. J'ai l'impression que quand même que ça change par différents paramètres que j'ai pu voir aussi dans ce travail de projet d'hôte. Pour moi, c'était le plus grand sacrifice, c'est de sacrifier cette vie professionnelle, ce noyau de contact surtout. Vous parlez de mode, tout d'un coup, vous êtes dans le milieu de la mode, et tout d'un coup, vous parlez que de médecine, de soins, et ça, c'est énorme pour moi. C'est peut-être ça, le sacrifice, plus que d'autres choses. Parce que j'ai quand même gardé certaines activités, mais c'est le contact, c'est ce monde professionnel avec un monde qui n'était pas le mien. C'est peut-être ça le plus gros sacrifice.
Est-ce que vous avez eu cette conversation avec votre frère?
Bonne question. Pas vraiment. On a beaucoup vécu avec des non-dits. Et puis, oui, quand on peut dire les choses, ça fait vraiment du bien. J'ai encore beaucoup de peine de parler de ça, mais c'est un vide énorme. Tout d'un coup, vous êtes là, il vous semble que vous n'avez plus rien à faire. Il vous semble que tout ce brouhaha, toute cette organisation... Puis pour finir, c'était devenu les personnes du CMS, par exemple... qui était là deux fois par jour, on a lié des liens, bien sûr, on avait une vie très remplie, tout ça. On s'était habitué pour venir. C'est comme si tout d'un coup, c'est vous qui reculez. C'est, la situation reste là, mais c'est vous êtes projeté en arrière et vous êtes plus du tout dans le coup, vous êtes vide. Il y a un vide énorme. Et puis, c'est difficile, hein, au début. C'est difficile. C'est plus facile de s'accommoder à la situation que de perdre la situation. En tout cas, pour nous, ma maman et moi, en tout cas, on a ressenti les mêmes choses. C'est un vide énorme. Tout d'un coup, vous ne sentez plus bon à rien. Vous dites, mais je suis là, pourquoi? Alors que non, vous ne devez pas réagir comme ça. Vous devez dire, maintenant, ben, j'ai donné de moi pour aider mon papa, ma maman. Ben, maintenant, je vais vivre un petit peu plus pour moi. On devrait se dire ça. Alors au tout début, c'est pas ça. Après, oui. Avec le temps, vous dites ça. Mais moi, je ne peux pas le dire encore parce que j'ai ma maman et puis elle a encore beaucoup besoin de moi. Mais disons que peut-être je penserai à moi quand je serai toute seule. J'aurai perdu mes deux parents. Pour le moment, je n'arrive pas encore à penser vraiment à moi. Comme j'ai été toute ma vie très proche de mes parents, je me sens encore toujours un peu obligée d'être là. Malgré que j'ai bientôt 60 ans, j'arrive encore pas à faire ça. Ça sert à rien d'avoir des regrets de choses. Il faut agir pour s'en sortir. Il faut pas rester sur le négatif. Il faut aller dans le positif. Je voulais absolument garder toujours la tête hors de l'eau pour moi et pour ma famille. Égoïstement pour moi et pour ma famille. Parallèlement.
Et vous avez réussi.
J'espère. Je l'espère vraiment de tout mon cœur.
Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brise-Glace. Je suis Célia Héron. Ce podcast a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum et monté par Lise Boucher. Merci aussi à Groupe Mutuel pour le soutien apporté à cet épisode. Et pour découvrir tous les autres, rendez-vous sur la page letemps.ch/podcast ou sur vos applications d'écoute. À dans 15 jours.